Je suis directeur des relations européennes et internationales au muséum, mais ma spécialité d'origine est l'écologie appliquée. Et également, je suis le point focal français pour l'organe scientifique de la Convention sur la diversité biologique, dont dépend entre autres le protocole de Carthagène. Alors, je vais essayer de vous parler rapidement, puisqu'on me réduit sauvagement de 3 minutes. La connaissance des huîtres, l'écologie des huîtres, parler un petit peu de la création des triploïdes, et puis surtout les questions et les risques potentiels des contrôles et de ce qui peut éventuellement nous préoccuper pour le futur. Alors quand on fait ce qu'on appelle la bibliographie scientifique, maintenant c'est largement simplifié avec Internet, on a beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on regarde, si vous voulez, le nombre de publications scientifiques, j'entends publications scientifiques au sens où on l'entend, c'est-à-dire dans des revues révisées par les pairs, etc. Et on s'aperçoit que pour lui, des articles sur la physiologie, sur le cycle de reproduction, sur la génétique. Alors là, mais on en a, mais des centaines. Hein. Je sais pas, un jeune chercheur qui débute là-dedans, s'il veut tout lire, il aura quand même des problèmes. Et puis on a aussi pas mal dans d'autres domaines socio-économiques, et puis dans la gastronomie aussi. Enfin, ça, c'est peut-être pas les revues scientifiques. Mais, par contre, lorsqu'on va regarder ce qu'il y a sur les virus et les algues, on en trouve encore pas mal. Hein. Il y a beaucoup, mais c'est nettement moins productif. Et alors, par contre, en ce qui concerne l'écologie et la biologie de l'huître, eh bien là, ça devient beaucoup plus faible. On en a quand même, hein, faut pas exagérer, mais disons que c'est pas anecdotique, c'est plus qu'anecdotique, mais c'est quand même pas beaucoup. Alors je voudrais rappeler quand même que l'huître est un animal, qu'elle se nourrit, qu'elle nourrit d'autres animaux, et que sa survie est liée, comme tout animal, à des facteurs abiotiques, hein, c'est-à-dire la température, la composition de l'atmosphère, etc., puis aux facteurs biotiques, ce qui l'entoure. Et d'autre part, comme tout animal, elle interagit avec son environnement. Et elle est soumise aux règles normales de toute espèce animale, de ce qu'on appelle la dynamique des populations, la façon dont les populations évoluent. Et qu'on n'a jamais une espèce qui est toute seule et qui vit toute seule, elle vit dans un contexte. Hein. Et en particulier, elle va participer à quelque chose, autrefois on apprenait ça à l'école primaire, mais j'ai l'impression qu'il y a la connaissance qui s'est perdue en ligne, il faut bien que ça soit tout simple, c'est la chaîne alimentaire hein, qui démarre avec de la production, les plantes qui sont mangées par des herbivores, qui sont mangées par des carnivores, et ainsi de suite. Et à la fin, vous avez des herbivores qui sont des détritivores qui permettent de recycler un petit peu tout ça. Alors l'huître, elle se situe clairement au niveau des herbivores, donc au début de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'elle va conditionner tout ce qu'il y a derrière, mais également elle va être conditionnée par la production. Hein. Donc elle est un maillon d'une chaîne, et de vouloir étudier un seul point, un seul maillon, en matière, je dirais, d'écologie, c'est quelque chose qui ne tient pas la route très longtemps. Alors, les facteurs alimentaires, bon, sont en général les plus importants, hein, puisqu'ils influent sur la fécondité, sur la longévité, la vitesse de développement, les taux de mortalité, et ainsi de suite. Et puis, surtout, donc, les animaux vont être sensibles à un certain nombre de facteurs de l'environnement, que ce soit d'ailleurs des facteurs nutritifs, ou des facteurs physiques, température, salinité, etc. On regarde pour chaque facteur, vous avez un minimum. Si le facteur est en dessous de ce minimum, ben, l'espèce ne peut pas survivre. Et puis un maximum, là elle peut survivre. Et puis petit à petit, on définit les zones, ce qu'on appelle les zones optimales, ou la zone possible qui a un rapport avec l'intensité des facteurs. Et donc ça, ça existe pour chaque facteur, pour chaque animal. Et que vouloir, je dirais, ramener l'étude d'un animal à simplement la prise en compte d'un ou deux facteurs, en général, est quelque chose qui ne donne pas des très bons résultats sur la connaissance d'un impact, sur la connaissance d'une espèce, ou l'impact de ce qu'il peut y avoir. Alors, on est arrivé à une création des huîtres triploïdes, hein, je pense que ça ne posera pas de problème, tout le monde est bien d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a fait des huîtres triploïdes? Pour des raisons économiques et financières, pour des raisons écologiques. Cette huître, elle est commercialisable toute l'année, on l'a dit, et elle croit une croissance plus rapide. Mais c'était quand même un peu surprenant qu'on s'est fixé cet objectif économique, bon, qui est un objectif comme un autre, mais que la prise en compte des lois fondamentales de la biologie ou du fondement des écosystèmes ne semble pas, tout au moins d'après ce que j'ai pu lire, avoir été la principale préoccupation. Il y en a eu, hein, exagéré. Et il y a un certain nombre de questions qui restent quand même en question, sur lesquelles on a un petit peu des débuts de réponse, mais que des débuts. Or, si quand on est à généraliser quelque chose, quand on crée, c'est un nouvel organisme, lui triploïde, hein, et on la met dans le milieu naturel. Alors, donc, c'est quand même assez important, avant d'être très généralisé, qu'on ait des réponses, au moins avec un minimum de sécurité. Alors, souvent, on entend dire, d'ailleurs, je l'ai même entendu ici, dire, ça n'a pas d'impact. Évidemment, si on ne l'a pas étudié, on n'a pas trouvé d'impact. Hein, ça, c'est la meilleure façon de démontrer que quelque chose n'a pas d'impact, c'est de ne pas étudier l'impact. Et ça, ça marche à 100%. Hein. Et malheureusement, quand on va regarder les études sérieuses, les publications scientifiques, eh bien, il y a encore beaucoup de questions hein, sur la sensibilité plus ou moins forte sismique. Et je pense que l'excellent exposé qu'on a eu juste avant montre encore à quel stade on est encore à se poser des questions. Hein, les sensibilités aux virus et aux maladies, on en est là, on va poursuivre, alors que ça fait quand même près de 10 ans qu'on met ce nouvel organisme partout. Et puis, une question aussi qui pourrait se poser, c'est la sensibilité au changement climatique. Ça devient un peu d'actualité, c'est en route depuis longtemps, mais c'est quand même quelque chose qu'il va falloir voir. Et puis, éventuellement, quelles sont les conséquences sur de la modification des cycles de vie, en particulier parce que les huîtres n'ont pas de période de reproduction. Alors, on a des risques potentiels, ça ne veut pas dire qu'ils existent, mais ils sont très peu étudiés. Hein, et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, hein, quand ce n'est pas étudié, on dit on n'a pas démontré d'impact. Ce qui est parfaitement vrai, on n'a pas démontré d'impact. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Parce que si on n'a pas fait les études, il n'y en a pas d'impact. Hein. Et on a quand même une pauvreté de la littérature scientifique sur les impacts de ces introductions. Hein. Alors, en particulier, il y a un organisme qui est, je dirais, un peu au centre. Et puis, donc, il y a eu des éthiques, etc. Alors, vous avez cité exactement les deux choses les plus importantes, qui étaient la réflexion du comité d'éthique de l'IFREMER en 2004. Mais ce comité d'éthique, on l'a supprimé depuis. Hein. Comme ça, on est à peu près tranquille. Alors, vous avez parlé du rapport Chevassure-Louis et du avec Gilles Boeuf. Hein, qui posent vraiment des très bonnes questions, hein, ce rapport. Mais on se demande qui l'a lu. Hein. Enfin, moi, j'ai interrogé quand même beaucoup de monde, je n'ai pas entendu beaucoup de personnes. Et en tout cas, ils ont posé des questions. Hein. Alors, ils ont mis la phrase que vous avez donnée, qui est parfaitement exacte, mais il y a des commentaires avant. Et je pense qu'isoler une phrase de son contexte, ça pose problème. Et donc, finalement, ce qui est important, c'est quand même d'évaluer les risques potentiels avec les conséquences de la dissémination dans un milieu naturel, en particulier vis-à-vis des huîtres sauvages, des écosystèmes et de la biodiversité en général. Hein? Alors, et puis, il ne faut quand même pas oublier quelles vont être les conséquences sur la diversité génétique des populations sauvages, même si c'est peut-être à des secteurs où on a un peu plus de publications, mais il y a des choses qui se freinent avec le temps, en sachant que la stérilité totale, elle n'existe pas. C'est un fait scientifique. Elle peut être très faible, anecdotique, accidentelle, parce que quelquefois, mais ça existe. La stérilité totale n'existe pas. Les conditions de survie des populations sauvages, hein, quand on regarde en matière d'études là-dessus, hein, il y a quelques trucs, mais c'est vraiment très très faible. Sur le fonctionnement des écosystèmes, étant donné qu'elle produit toute l'année, qu'elle va manger, qu'elle grossit plus vite, ça veut dire qu'elle consomme plus vite. Quelles sont les conséquences sur les chaînes alimentaires? Alors là, on ne sait pas. Quels sont les impacts sur la dynamique des populations, éventuellement d'autres espèces à côté qui vivent dans le même milieu? Ça, c'est très difficile de répondre. Hein. Et puis, il y a des modifications de mode de culture, et on pourrait se préoccuper aussi de leur comportement. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, quelque chose de fondamental en matière d'écologie, vous avez tous ces risques. Tous ces problèmes à se poser, mais ce sont les problèmes de synergie. Hein. C'est-à-dire que vous additionnez deux problèmes, mais la somme des deux fait plus que simplement la somme des deux. Ça fait plus. Hein. Et ces phénomènes de synergie, c'est vrai que c'est le plus difficile à appréhender. Hein. C'est vrai que ça ne se fait pas comme ça. Mais on est là, hein, on modifie des milieux, et finalement, on attend, et puis éventuellement, on va voir. Alors, éventuellement, des risques sanitaires pour les huîtres. Bon, c'est probablement très faible. Hein. Je pense que c'est, disons qu'avec la connaissance qu'on a, mais enfin, tant qu'on ne l'a pas étudié, on ne peut pas l'affirmer. Et pour l'instant, je n'ai pas vu d'études là-dessus. sur la santé humaine, pardon. Par contre, les risques sanitaires, ça, c'est tout autre chose. Et puis, éventuellement, des impacts un peu économiques, hein, parce que ça modifie les circuits de distribution, parce qu'on distribue toute l'année. Enfin, ça, c'est pas vraiment mon domaine. Hein, je ne vais pas insister là-dessus. Ouais, j'ai le droit des décomptes, là.
Qui me permet de dire qu'il ne vous reste plus que 2 minutes?
Ben oui, oui. Ah. Ça vient.
Parce que je vous... Et merci de ne pas trop parler dans la salle. Restons attentifs, puisque monsieur le duc est absolument très intéressant.
Et puis, ce qui me surprend aussi, c'est l'ignorance totale de la réglementation internationale. Tout à l'heure, vous avez... C'est absolu... Mais j'en parle à droite, à gauche. En France, il existe... Enfin, en France, dans le monde, il existe quelque chose qui s'appelle le protocole de Carthagène. Le protocole de Carthagène qui a pour but de réglementer tout ce qui concerne les organismes vivants modifiés, qui en donne une définition. Alors, monsieur, vous avez dit justement que vous n'aviez analysé que la législation française, ce qui vous a permis de rester dans le vrai. Mais je vous signale que l'huître correspond exactement à la définition de l'organisme vivant modifié dans le protocole de Carthagène. Nous l'avons ratifié, et selon notre constitution, les conventions internationales ratifiées par la France ont valeur supérieure à la loi. Voilà. Alors, on essaye d'établir des normes et des contrôles pour diminuer les risques. Hein, ce qui a contrôlé, c'est l'installation de production des tétraploïdes, les installations de production de triploïdes, le transport des géniteurs, l'origine des dessins avec toute la traçabilité. Alors, bon, il y a des problèmes de normes, les problèmes de contrôle. Il ne faut pas oublier que si on dit, on contrôle tout, ben voyons. Monsieur encore a donné un très bon exemple tout à l'heure, hein, d'une écloserie de... C'est deux turbos, hein, des turbos dont vous parliez, je le crois. Bon, ben, un jour, il y a un accident, puis les turbos sont partis dans la mer. Mais on avait pris toutes les précautions. Hein. Et donc, pour mettre en place des contrôles, il faut quand même qu'il y ait des bases juridiques, y compris des sanctions, des moyens humains, y compris de la formation, de l'indépendance des contrôleurs, des techniques, parce qu'il y a besoin d'équipement, hein, parce qu'une huître triploïde, quand même, ça s'analyse relativement bien. Hein. Savoir si une huître vient d'un essaim ou pas, c'est compliqué. Mais si elle est triploïde ou diploïde, c'est bon, j'ai presque fini.
Conclusion.
Le contrôle absolu n'existe pas. Hein. D'autre part, les moyens de contrôle diminuent, puisqu'on diminue le nombre de fonctionnaires, etc. Et d'autre part, on développe le contrôle par les gens, l'autocontrôle. Hein. Malgré tout, on lance des cris d'alarme, sans arrêt. Les gouvernements prennent des engagements que on va tout contrôler, on va bien faire attention. Et malgré tout, on développe dans le milieu naturel une technique. Hein, sans évaluer, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la refuser, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se produire à n'importe quelle condition, mais vraiment, on ne dispose pas des éléments. Puis même, on continue, hein, puisque maintenant, on va faire de la moule triploïde. Alors, ce qui est vraiment important dans cette affaire-là, c'est que prenons les objectifs internationaux, préservons la biodiversité, maintenons les ostréiculteurs et agissons.
Merci.